Excellence, Madame la Haute Commissaire des Droits de l'Homme, distingués membres du Conseil des Droits de l'Homme, Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui j'ai l'insigne honneur de présenter devant votre auguste Conseil mon deuxième rapport sur la situation des droits de l'homme au Mali, en ma qualité d'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme depuis le 1er mai 2018. Au terme de mes quatrième et cinquième missions au Mali en novembre 2019 et février 2020, j'ai visité la capitale, le centre du pays, notamment la région de Mopti, et le nord du pays, notamment les régions de Tombouctou et de Kidal. Je voudrais saluer la coopération remarquable dont ce mandat a pu bénéficier de la part du gouvernement malien tout au long de mes séjours. Je remercie également le système des Nations Unies pour le soutien humain, logistique et surtout en matière de sécurité que j'ai rencontré pendant mes visites successives. Remercier tout particulièrement le gouvernement, notamment le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères, le président de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et beaucoup d'autres représentants de l'État. J'ai pu avoir également un entretien extrêmement fructueux avec l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui est justement de la région du centre, et le haut représentant de la mission de l'Union africaine pour le Mali au Sahel, le général Pierre Bouyoya, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Saleh Anadif, avec qui j'ai eu des séances de briefing et de débriefing qui ont été extrêmement utiles pour ma compréhension de la situation au Mali. J'ai rencontré aussi des représentants du corps diplomatique et des organismes des Nations Unies, dont les dialogues et les informations réciproques ont été extrêmement fructueux pour nous aussi. J'ai rencontré également des représentants de la société civile, y compris des associations de jeunes et des associations de victimes du Nord Mali, des représentants des communautés Dogon et Peul, ainsi que des représentants de la plateforme de la coordination des mouvements de l'Azawad. Mes deux visites n'auraient pas été un succès sans l'appui technique, logistique et sécuritaire du système des États-Unis au Mali, avec une mention tout à fait spéciale de la division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA. Au cours de mes quatrième et cinquième missions, je me suis particulièrement focalisé sur les questions majeures suivantes: les efforts déployés par les autorités maliennes et les partenaires internationaux pour améliorer la protection des civils, en particulier dans le centre et le Nord Mali, où la violence intercommunautaire a atteint des niveaux alarmants. Les décisions concrètes prises pour mettre un terme à l'impunité qui alimente les violations et atteintes aux droits de l'homme et le cycle infernal des violences dans ces régions. Les résultats obtenus dans le domaine de la justice transitionnelle, la grave crise humanitaire qui ne fait pas suffisamment l'objet d'attention des acteurs de la paix, la participation de la société civile, notamment des femmes et de la jeunesse dans le processus de paix et de réconciliation. Protection des civils, en particulier dans le Nord Mali. Globalement, comme je l'ai expliqué dans mon rapport, l'absence d'autorité administrative et de sécurité locale dans la plupart des régions du centre et du nord du pays place la population civile devant une situation de vulnérabilité tout à fait accrue. Par contre, je salue le redéploiement progressif des forces armées maliennes reconstituées à Kidal, Gao et Tombouctou, ainsi que l'accélération du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration et la création de zones de déploiement économique des régions du nord du pays, qui constituent des étapes importantes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation d'Alger au Nord Mali. Par ailleurs, la coordination des mouvements de l'Azawad a mis en place un mécanisme de promotion des droits de l'homme. Bien que j'ai noté des éclaircies au nord du Mali dans le domaine sécuritaire et des droits de l'homme, au centre du Mali, j'ai constaté une grave préoccupation relative à la dégradation de la situation, sans qu'aucune réponse adéquate ne soit apportée pour protéger les populations civiles. J'ai également constaté que cette région cumule des défaillances sécuritaires, judiciaires et administratives qui ont des effets tout à fait désastreux sur l'explosion des violences intercommunautaires, des violations graves des droits humains, mais surtout de l'impunité. En effet, dans cette région, notamment celle de Mopti, les populations civiles sont de plus en plus piégées par des groupes criminels transnationaux, les groupes armés extrémistes, ainsi que les milices armées fondées sur l'appartenance communautaire, qui s'assurent de plus en plus le contrôle de cette zone où les enjeux économiques liés à la transhumance et le vol de bétail sont devenus les grands défis de la région. J'ai noté que les violences armées sur fond de tensions communautaires ont gravement augmenté et que les groupes extrémistes armés profitent de l'absence de l'État dans les zones pour exploiter et aggraver les fractures entre les communautés. Un cycle infernal de violence et de représailles se succède sans fin dans cette région du centre. Par exemple, selon les chiffres de l'ONU, de janvier à mars 2020, les groupes armés fondés sur l'appartenance communautaire et les groupes extrémistes violents ont été respectivement responsables de 36,45 et 17,2% des 598 violations et abus des droits humains documentés, tandis que les groupes armés signataires et non signataires de l'accord de paix ont quant à eux été responsables de 10,03 des cas. Il faut prendre acte de l'impuissance manifeste des forces armées maliennes et de la MINUSMA à garantir aux populations civiles de cette région du centre la sécurité appropriée. J'ai été consterné par l'attaque des hommes armés en date du 14 février contre le village d'Ogassougou dans la région de Mopti, au cours de laquelle au moins 33 personnes ont été tuées, 3 blessées, tandis que 20 portées disparues. J'ai été choqué d'apprendre que la veille de l'attaque, le détachement des forces armées maliennes, qui jusque-là assurait la sécurité du village, s'était retiré des lieux. Et ce, malgré le fait qu'il avait été prévenu d'une attaque imminente contre le village. Parmi les attaques similaires, je pourrais citer notamment l'attaque en date du 23 mars 2019 contre le même village d'Ogassougou, au cours de laquelle au moins 150 membres de la communauté Peul, dont 46 enfants ont été tués, tandis que 65 ont été blessés. Et l'attaque en date du 9 juin 2019 contre le village de Sobanda, au cours de laquelle 35 membres de la communauté Dogon, dont 2 enfants au moins de 12 ans, ont été tués. Presque tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés, y compris des représentants de l'État ainsi que des forces de défense et de sécurité, ont souligné que les auteurs d'attaques similaires antérieures dans différentes régions n'ont jamais répondu de leur acte. Cancer de l'impunité est l'un des facteurs aggravants de la violence et des confusions actuelles de la situation sécuritaire et politique au Mali. Par ailleurs, comme indiqué dans mon rapport précédent, les opérations antiterroristes menées par les forces de défense et de sécurité maliennes dans cette région auraient conduit à violations sérieuses des droits de l'homme. Selon les chiffres de l'ONU, de janvier à mars 2020, les forces nationales de défense et de sécurité maliennes, dont certaines opérant dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel, ont été responsables d'au moins 36,45 des violations et abus des droits de l'homme documentés. Ces violations comprennent notamment 119 exécutions extrajudiciaires et 32 disparitions forcées. En dépit de la gravité de la situation que je viens de décrire, je tiens néanmoins à saluer les diverses initiatives citées dans mon rapport qui ont été prises par les autorités maliennes pour apporter une solution aux violences sur fond de tensions communautaires. Les avancées et défis dans la lutte contre l'impunité. J'ai noté des progrès limités, mais louables, enregistrés dans le domaine, avec notamment le fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la corruption et des crimes économiques, avec des résultats vraiment concrets. Malheureusement, la plupart des auteurs de violations de droits de l'homme, du droit international humanitaire, commises récemment, restent impunis. Les autorités judiciaires ont assuré que des enquêtes étaient en cours mais qu'en raison de la situation sécuritaire et du climat de peur, avec des témoins de moins en moins, avec des témoins et des victimes craignant des représailles, le processus judiciaire est pratiquement bloqué. Les réalisations dans le domaine de la justice transitionnelle, je me félicite des progrès faits par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. En effet, selon les informations reçues au 20 mars 2020, la CVJR avait recueilli 16 183 témoignages, dont 60% ont été faits par des femmes depuis sa création. Deux auditions publiques thématiques sont prévues pour le mois de juin. La commission organisera au total 6 audiences publiques. Situation humanitaire, notamment des personnes déplacées ainsi que des enfants. La détérioration de la situation sécuritaire a contribué à une détérioration continue de la situation humanitaire. Selon des informations reçues, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays a plus que doublé pour la deuxième année consécutive. Leur nombre, qui était de 84 000 en janvier 2019, est passé à 205 751 en décembre 2019, puis finalement à 218 000 en mars 2020. Par ailleurs, selon les chiffres de l'ONU, le nombre d'écoles fermées ou non fonctionnelles à cause de l'insécurité est passé de 716 en novembre 2018 à 1113 en décembre 2019 et finalement en 1151 en mars 2020, affectant 330 000 enfants. En plus d'être privés de leur droit à l'éducation, ces enfants devenus oisifs sont exposés à des risques de violence, d'abus et d'exploitation, y compris le recrutement par les divers groupes armés, milices, mouvements extrémistes violents et groupes criminels qui opèrent dans le pays. La participation de la société civile et notamment des femmes et de la jeunesse dans le processus de paix et de réconciliation. Comme je l'ai souligné dans mon rapport, des avancées significatives ont été accomplies dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali depuis le début de l'année 2019. Je me félicite du fait que le dialogue national inclusif s'est conclu à Bamako le 22 décembre 2019 par l'adoption de 4 résolutions et d'une série de recommandations a connu la participation des organisations de la société civile, y compris des groupes et femmes, et surtout des jeunes, et surtout aussi de la CEMA. Cependant, je regrette le fait que, de manière générale, la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation demeure marginale, notamment dans les organes de prise de décision. À titre d'exemple, le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ne comprend pas une seule femme. Les femmes ne représentent que 4% des membres des sous-comités du comité de suivi de l'accord. En outre, les femmes ne représentent que 3% de la Commission nationale du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration. 6% du Conseil national pour la réforme du secteur de sécurité. 20% de la Commission vérité, justice et réconciliation. Et respectivement, 1 et 5% dans les administrations intérimaires au niveau régional. Recommandation. Je recommande vivement aux autorités maliennes, notamment, d'intensifier leurs efforts en matière de lutte contre l'impunité et de traduire en justice tous les auteurs de violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, quel que soit leur statut ou leur appartenance politique, religieuse ou ethnique. De continuer à s'engager activement dans les initiatives de construction de la paix, de médiation, de dialogue et de réconciliation avec tous les citoyens maliens pour parvenir à une cessation des hostilités et à une paix durable. De s'engager activement dans la mise en œuvre des recommandations émanant de l'examen périodique universel de 2018 et des organes conventionnels. Je recommande aux États du G5 Sahel d'adopter une approche holistique, régionale et coordonnée des réponses sécuritaires et en matière des droits humains, étant donné la similitude des problèmes auxquels ils font face. Je recommande à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine, en coopération avec la communauté internationale, de trouver d'urgence des moyens efficaces pour mettre fin à la violence et aux graves violations d'abus des droits de l'homme dans le centre du Mali. Je recommande au Conseil de sécurité de l'ONU de réévaluer la situation sécuritaire dans la région du centre et d'ajuster le mandat de la MINUSMA en conséquence. Je commande vivement au Conseil des droits de l'homme de rester saisi de la question de la situation des droits de l'homme au Mali et de continuer à soutenir le mandat de l'expert indépendant pour permettre une assistance continue, ainsi que le suivi et l'évaluation des progrès dans le domaine de la promotion des droits de l'homme au Mali. Je vous remercie.